Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info. Ah,
bah, mais je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, contre l'alcoolémie et ton fléchis. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
La radio più ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous info sur Radio Canu. C'est le Canu Info du vendredi, un peu spécial aujourd'hui, puisqu'après 2 mois de grosse mobilisation pour vous envoyer à distance des infos toutes fraîches, bien l'équipe se repose en partie. Mais quand même, on parlera ce soir éducation nationale, assassinat policier, nucléaire également. Et puis on a tendu notre micro à une commerçante des pentes de la Croix-Rousse qui nous raconte l'enfer du confinement pour ses petites affaires. Et on terminera par un doc spécial, un gros big up à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pendant ce confinement pour que les ondes continuent à vivre sur Radio Canu. Un documentaire donc sur Radio Canu, confiné mais diffusé. On terminera enfin avec la diffusion de l'album Concept de Grand Vémont. Concept parce que cet album ne tient qu'en un titre d'un peu plus d'une demi-heure. On vous en diffusera une partie.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Une rentrée en septembre, monsieur le ministre, aurait été plus sécurisée, plus sereine pour tous?
Je pense que non. Il y a plus de risques à rester chez soi qu'à aller à l'école.
Alors que Blanquer avait promis de ne jamais fermer les écoles et qu'il a été démenti dans la journée par Édouard Philippe il y a 2 mois, il nous fait le coup aujourd'hui d'un deuxième mensonge éhonté. Donc, les écoles seraient plus sûres que les domiciles. C'est quand même, après 2 mois de confinement, assez fort de café. Sur le site du café pédagogique qui est destiné aux enseignants et enseignantes, mais accessible pour tout le monde, on a retrouvé aujourd'hui une tribune de hauts fonctionnaires. Certains travaillent au ministère, tout proche de Blanquer, et ils dénoncent le projet réactionnaire de Jean-Michel Blanquer et sa façon de tenir ce ministère depuis sa prise de pouvoir en 2017. En prétendant construire une école de la confiance, le ministre instaure un authentique climat de défiance et celles et ceux qui écrivent cette tribune ne sont pas forcément des camarades. Certains le disent d'ailleurs dedans, ils sont plutôt de droite et trouvent ces manières à Jean-Michel plutôt cavalières. Ils dénoncent la manière de gouverner de Jean-Michel Blanquer, manager autoritaire, affirmant que ce n'est pas seulement la liberté pédagogique des enseignants qui est mise à mal, mais aussi la liberté de pensée d'une institution tout entière qui est mise au pas par le ministre. Des enseignants à qui l'on distribue des guides au mépris de leur expertise, des inspecteurs du premier degré que l'on veut caporaliser et dont on réduit les missions à des fonctions de contrôle, des inspecteurs du second degré sommés de relayer des injonctions paradoxales et de nier la réalité des difficultés de mise en œuvre sur le terrain, une inspection générale de plus en plus technocratisée, réduite au contrôle et dépossédée de sa fonction d'expertise, des chercheurs en sciences de l'éducation, en sciences humaines et sociales, que l'on stigmatise, ostracise, voire excommunie du débat d'idées inhérent à tout système éducatif dans un état de droit. Ce sont des fonctionnaires et hauts fonctionnaires purement et simplement dépossédés de leur dossier d'expertise. Voilà ce que disent les signataires de cette tribune, fonctionnaires et hauts fonctionnaires, qui sont dépossédés au profit de technocrates plus soucieux de leur intérêt de carrière à court terme. Alors, parmi les nouveautés apportées par la période de Jean-Michel Blanquer, qui s'est ouverte en 2017, eh bien, il y a notamment l'arrivée d'un certain scientisme. Le ministre, dès son arrivée, Ruud Grenelle, a voulu donner une caution scientifique colorée de modernité à ce qui ne relève que de mesures idéologiques marquées dans l'effet du sceau d'une pensée conservatrice et néolibérale sommaire. Dans ce cadre, les neurosciences sont érigés au rang de nouvelles doctrines pédagogiques au détriment du savoir-faire des enseignants et des personnels d'encadrement de terrain. Ces neurosciences se substituent ainsi à la compréhension des enjeux culturels, sociaux et cognitifs des apprentissages scolaires. Le numérique éducatif, alpha et oméga de la pensée pédagogique actuelle et qui a été renforcé par cette période de confinement, sert de cheval de Troie pour infiltrer les pratiques pédagogiques et offrir l'échec scolaire en marché aux éditeurs numériques et opérateurs privés. Les annonces récentes du ministre au moment du déconfinement sur l'importance future de l'enseignement à distance vont évidemment dans ce sens. Plus globalement, depuis 2017, Blanquer poursuit évidemment un projet réactionnaire et ça rime. En voie générale, par exemple, sous le prétexte de l'exigence et du rehaussement du niveau, le ministre établit une culture élitiste qui trie, hiérarchise et sélectionne les élèves. Il met en place la compétition de tous et l'élimination des plus faibles au fur et à mesure du cursus scolaire. La réforme du bac soumet les familles à une carte des enseignements de spécialité, créant des inégalités territoriales de fait. C'est des choses que l'on a déjà dites ici. En voie professionnelle ensuite, alors qu'une large part du projet de démocratisation de l'école a reposé sur l'accès de ses élèves à l'enseignement supérieur, les bacheliers professionnels ont été dépossédés à bas bruit des disciplines de l'enseignement général par une baisse drastique des horaires, ce qui leur interdit désormais tout projet de poursuite d'études. C'est-à-dire qu'en gros, en voie professionnelle, tout est fait pour que l'on sorte avec un diplôme et qu'on ne puisse pas continuer plus loin ses études. Cette saignée horaire des disciplines générales en lycée pro, dénoncée par les enseignants comme on crie dans le désert, attente aussi à un enseignement émancipateur. Cette politique consiste donc à séparer les lycées professionnels du paysage scolaire français en les arrimant, en les accrochant de plus en plus au patronat, c'est-à-dire au monde de l'entreprise, et à une vision surannée et irréelle de l'apprentissage. On pourrait aussi parler des écoles primaires et des collèges, où par 1000 dispositifs, les élèves sont de plus en plus mis en concurrence entre eux, pour peut-être les mettre au pas, eux qui vivent dans cette société néolibérale, ou les rendre capables de s'y intégrer. Mais on ne va pas développer, mais pour aggraver encore le constat, le ministre a choisi, sur les questions de laïcité ou de citoyenneté, une mise en scène ridicule, et puis très souvent raciste et islamophobe, puisque parmi les sages qui sont censés traiter de ces questions à ses côtés, on ne trouve que des gens très nerveux, très conservateurs, enfin bref, que des gens qui ont la haine du musulman en tête et qui sont sans arrêt en train de replacer l'islam au milieu de ces débats. Un des derniers faits divers en date sur cette question, c'était notamment la question des mamans accompagnatrices des sorties scolaires des enfants, où il y a eu à nouveau tout un foin qui a été fait sur la présence du voile. Là aussi, on ne développera pas, ça pue. Et quand un de ses conseillers à Blanquer lui dit « Écoutez, ça pue un peu votre communication », en général, on lui répond par une formule sous forme de slogan que finalement, cette critique n'est que bourdieuserie, c'est-à-dire référence à Pierre Bourdieu, le sociologue. Et alors, les signataires de cette tribune, qui d'ailleurs signent anonymement sous le nom de groupe Grenelle, terminent, eux qui ne sont pas tous sans doute des bourdieusiens, eux terminent donc leur courrier en affirmant « Nous, cadres de l'éducation nationale, confondus par la situation faite à l'école de la République, ne pouvons nous résoudre à cet état de fait et prenons la responsabilité d'écrire ici pour qu'au moins nous puissions nous regarder en face et nous dire que nous avons prévenu du tournant qu'avait pris l'école. » Si vous voulez retrouver donc tout ce texte, qui est bien plus long que ce que je viens de vous expliquer ou de vous lire, c'est sur le site du Café Pédagogique. Et école toujours, puisque c'était le sujet cette semaine sur toutes les rédactions, on a parcouru une autre tribune qui est parue dans Le Monde, elle, et qui a été signée par la philosophe Barbara Cassin et son fils, l'anthropologue Victor Legendre, qui propose que l'école du déconfinement soit une école de la découverte, dans le strict respect des règles sanitaires, bien sûr. Et une école de la découverte, ça veut dire une ouverture des lieux de culture et des espaces de liberté qui sont aujourd'hui fermés et qui sont d'habitude peu fréquentés, notamment par les élèves des classes populaires. Ce qu'il propose donc, sans que je ne lise cette tribune, c'est de faire de ce moment particulier de l'école réouverte, de l'école déconfinée, où finalement les enseignants et les instituteurs, institutrices ont peu d'élèves devant eux, de faire de ce moment un moment particulier, un moment où on pourrait développer des pratiques pédagogiques ou des sorties que les enseignants et enseignantes n'ont pas le temps de développer l'habitude, eux qui sont pris un peu au piège des programmes et de leur nécessité de service. Ça passerait donc par de l'innovation pédagogique, la présentation de thématiques qu'ils n'ont pas l'habitude de couvrir, réfléchir également peut-être, si c'est pas trop angoissant, à ce que ces élèves et toute la population est en train de vivre, et puis aussi, surtout, de faire sortir ces élèves dans des salles de cinéma, des théâtres, des musées, des parcs, des jardins, dans lesquels ils n'ont pas l'habitude d'aller pour découvrir autre chose, justement, que leur environnement quotidien. Et ça me semble être, en tout cas partiellement, une bonne proposition qui permet de sortir par le haut des débats sans fin qui, d'un côté, nous expliquent que les instituteurs, institutrices et enseignants qui retournent au travail sont des bourreaux qui vont encadrer des élèves dans un cadre horrible. C'est vrai pour le cadre. Pour le coup, les enseignants et enseignantes qui vont au travail y vont aussi parce qu'il est nécessaire à ces élèves de retrouver d'autres formes de sociabilité que celles de leur famille où ils ont été enfermés parfois dans peu de mètres carrés pendant 2 mois. Et puis, si dans ce cadre, l'école et sa réouverture, c'est avant tout évidemment une garderie pour que les travailleuses et les travailleurs retournent trimés pour leur patron, c'est une réalité, il faut le rappeler. Mais pour autant, ces travailleuses et ces travailleurs, pour certaines d'entre eux, ils ont besoin de travailler pour payer leur loyer, pour se nourrir. Et en la matière, on n'a pas encore inventé d'alternative au travail salarié. Alors peut-être que c'est là-dessus qu'on devra plancher. Mais pour le moment, elles et eux doivent vivre.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Alors aujourd'hui dans la rubrique nucléaire, on va continuer dans la série « Il n'y a pas que dans les centrales d'EDF qu'il y a des dangers ». Et oui, le nucléaire, c'est en fait très souvent utilisé dans l'industrie et ça ne sert pas seulement à produire de l'électricité. Mais par contre, où qu'il soit utilisé, le nucléaire, c'est toujours plein de dangers. La preuve encore une fois avec deux infos sorties cette semaine. L'une concernant des travailleurs, l'autre une usine qui produit des radioéléments qui sont utilisés ensuite en médecine.
Alors d'abord, les travailleurs. Vous allez dire, si vous êtes assidu au Canu Info du vendredi, encore un truc sur les travailleurs ? Bah oui, encore. C'est qu'ils et elles sont en première ligne à s'en prendre plein la tronche des rayons. Et c'est rarement dit aux infos ce genre de truc. Et bah oui, forcément, ça donnerait une image pas très propre de cette merveilleuse industrie. Faudrait quand même pas ternir tout le travail de communication mis en place depuis plus de 50 ans pour convaincre que le nucléaire c'est sûr et sans danger. Alors voilà, nous on est là. On est là. On est là. Aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. Ah non, merde, pardon, je m'égare là. Donc je disais, nous on est là pour faire tourner ces infos concernant les travailleuses et travailleurs et on lâchera pas. On lâchera pas! Parce que si, en fait, le nucléaire, c'est toujours dégueu, où qu'on l'utilise et quoi qu'on fasse. Bref, donc, c'est l'histoire d'un mec, en fait non, c'est l'histoire de deux mecs, dont le travail, c'est de conduire et de transporter des chargements pour la société Impact Logistics. Et cette société, elle s'occupe entre autres de transporter des trucs radioactifs pour les services de médecine nucléaire. Du coup, ces chauffeurs sont donc des travailleurs exposés à des rayons. En gros, ils se font irradier par leur chargement à chaque fois qu'ils bossent. Comme c'est quand même réglementé, un patron ne peut pas exposer un travailleur au-delà d'une certaine limite de rayons sur l'année, ces chauffeurs portent des dosimètres. C'est des mini-badges en fait qui vont enregistrer toutes les radiations que la personne s'est prise. Mais alors attention, faut pas imaginer que c'est un truc qui sonne et qu'une alarme se déclenche quand une dose de rayon trop importante est enregistrée. Non, non, non. Un dosimètre, c'est un dispositif soi-disant de protection, donc de radioprotection puisqu'il s'agit de protéger contre la radioactivité. Mais c'est un dispositif de protection passif. Les dosimètres sont portés un certain temps, alors genre un mois ou trois mois, ça c'est au bon vouloir de l'employeur. Et les dosimètres sont ensuite envoyés dans un labo d'analyse qui va déterminer la dose totale que la personne qui a porté ce dosimètre s'est reçue. Donc soit l'employeur est un peu consciencieux et veut surveiller de près, donc les employés ont des dosimètres mensuels, soit ils ne s'en soucient guère et les analyses sont faites tous les 3 mois, ce qui laisse plus de temps pour dépasser la dose maximale de rayons autorisée sur une année.
Et donc chez Logistics, c'est Impact Logistics, les dosimètres sont relevés et analysés tous les mois. Et oui, alors on peut se dire que c'est plutôt sympa. Ou pas si pire en tout cas. Eh ben non. Parce que ça n'a pas empêché que deux conducteurs se fassent sur-irradier, c'est-à-dire au-delà de la limite max autorisée sur l'année. C'est-à-dire que la limite max autorisée sur l'année a été dépassée. Donc heureusement pas de beaucoup. Là où relever tous les mois et pas tous les 3 mois la dose prise lors de leur boulot s'est avéré utile. Utile, non, on peut pas dire ça, n'a pas empêché qu'ils se prennent plus de radiation que la limite légale. Ça les a pas protégés des rayons, hein, c'est juste pour mesurer. Ça a juste permis de limiter les dégâts et de ne pas trop dépasser la limite. Mais la limite, elle a quand même été dépassée. Super protection pour les travailleurs. Bravo les dosimètres et la protection passive. Bravo Impact Logistics.
Alors bon, concernant ces deux personnes surexposées, leurs patrons se sont quand même dit « on va être sympa, hein, on va adapter leur planning pour les mettre sur des activités un petit peu moins exposantes dans les prochains temps. » Sympa. Mais les patrons se sont aussi dit « bon, on va essayer de trouver des trucs pour mieux protéger nos salariés. » Et là, franchement, quand on voit ce qu'ils ont trouvé, on a envie de rigoler. Ou de pleurer. Je sais pas trop. Peut-être un peu les deux. Alors attention, tenez-vous bien, des trucs absolument révolutionnaires ont été découverts par les patrons, des trucs à mettre en place. Alors comme par exemple, améliorer la protection contre les rayons à l'intérieur des véhicules. Non mais sérieux. Ou encore, là je crois que c'est mon truc préféré, lors du chargement, la très très bonne idée de mettre les colis les plus irradiants le plus loin possible du conducteur. Non mais sans rien. Alors oui, c'est vrai, ce sont de bonnes idées et ce sera certainement efficace. Mais surtout, on se dit que c'est juste du putain de bon sens en fait de faire ça et que mais comment ça se fait que ça n'a pas déjà été fait avant ? Comme quoi, diriger une société ne rime pas forcément avec bon sens ni avec intelligence.
Qui sème le vent ? Récolte l'atomique !
Et allez, comme on est gourmand et qu'on aime bien vous gâter, on va vous parler très vite fait d'une autre info sortie cette semaine et qui nous vient tout droit de l'autorité de sûreté nucléaire. On reste dans notre série « Il n'y a pas que pour faire de l'électricité qu'on utilise le nucléaire ». Mais promis, hein, on vous en reparlera très vite de vos très chères centrales préférées. On sait que vous aimez particulièrement celle du Bugey. En tout cas, moi, je l'apprécie particulièrement. Et que bon nombre d'entre vous voient du coup juste sous leur fenêtre lyonnaise. Voilà.
Non, là aujourd'hui on va faire un spécial clin d'œil, spécial dédicace aux habitantes et habitants de l'Île-de-France et notamment ceux qui sont pas loin de Saclay dans l'Essonne. Mon conseil, barrez-vous vite vite et loin loin loin. Alors à Saclay, il y a non seulement tout un énorme site du CEA, donc CEA c'est comprendre tout ce qui est nucléaire militaire, on a encore des trucs bien bien sympas, mais il y a aussi l'usine de CIS Bio. Et oui, cet exploitant-là, on en parle peu, mais pourtant, c'est vraiment un des plus dégueux et un des moins sérieux. Dans cette usine, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien de la recherche et du développement, mais aussi de la production et de la distribution de produits radiopharmaceutiques et d'appareils à usage médical et pour le diagnostic et la thérapie. Alors, cette usine, elle sert à produire des radioéléments, donc des éléments radioactifs, utilisés là encore dans le domaine médical et pharmaceutique. Ouais, souvent ça va ensemble. Dans cette usine-là, elle a été plusieurs années sous surveillance renforcée par l'autorité de sûreté nucléaire. Elle a été condamnée en justice en 2018 pour avoir laissé complètement à l'abandon les moyens de lutte contre les incendies et pour d'autres gros soucis. En gros, là-bas, c'est manque de rigueur à tous les étages et dans le nucléaire, faut bien dire que manque de rigueur, c'est juste méga dangereux. Malheureusement, même si l'autorité de sûreté nucléaire lui a tapé sur les doigts et même si la justice l'a condamnée, CIS Bio, qui gère cette usine, continue de la gérer à la one again et depuis quelques temps, les déclarations s'enchaînent. Quelques exemples, découverte d'une source radioactive oubliée dans un local depuis 20 ans, contrôle des équipements de protection incendie oubliés, équipement important pour la sûreté et source électrique de secours qui ne redémarre pas après une coupure d'électricité, l'installation qui est laissée sans ventilation, sans moyen de communication, sans balise de surveillance de la radioactivité et sans système de supervision durant plusieurs heures suite à cette coupure électrique, pour ne citer que quelques exemples, tous survenus en 6 mois en 2009.
Et bah là, allez, on verse dans les problèmes de liquide radioactif mal géré, mal collecté, mal confiné. Cuve de liquide radioactif qui fuit, sonde de détection retirée, infiltration d'eau de pluie dans des réservoirs, canalisations qui ne sont pas étanches et qui n'ont pas été contrôlées, présence de liquide radioactif dans des réservoirs pas prévus pour, une somme franchement très impressionnante de problèmes a été découverte, tous liés à la collecte des effluents radioactifs que génèrent les activités de cette usine. Certains problèmes étaient connus de CIS Bio et résultaient de ses propres interventions sans qu'il ne s'agisse pour autant ou alors de manière inappropriée. D'autres problèmes lui étaient totalement inconnus. C'est-à-dire si la surveillance et l'exploitation de cette installation sont exemplaires et si tout est parfaitement contrôlé et sans danger comme on voudrait nous le faire croire.
Et le must, là encore, c'est que le responsable de cette usine, donc CIS Bio, a déclaré tout ça en disant « Bon, ok, c'est significatif pour la sûreté, d'accord. Mais par contre, aucune gravité. » Oui, ben on imagine bien que des fuites de liquide ultra radioactif, c'est pas grave, ni pour les travailleurs du site, ni pour la planète, les sols, les eaux, tout ça. Donc cette semaine, l'autorité de sûreté nucléaire a dit quand même, les gars, là c'est un petit peu grave tout ça, compte tenu du nombre de problèmes, des lacunes dans la manière de les traiter, des gros gros soucis d'organisation que vous avez, de votre manque de rigueur et surtout de votre absence totale de conscience des risques que vous générez et de votre incapacité à gérer correctement votre usine, on ferme, ça suffit les conneries. Bah non, je rigole, on aurait bien aimé, hein. Bah non, la SN, malgré tout ça, a juste dit, vous avez déclaré ça au plus bas niveau de gravité, bah nous, on va le relever un tout petit peu, on va le mettre au niveau 1. Et voilà, encore une fois, impunité pour les exploitants qui nous font à toutes et à tous courir des dangers. Mais répression, répression, enquête et contrôle judiciaire pour les militants anti-nucléaires.
Avec le nucléaire, les poissons respirent mieux dans les rivières.
Prenons une ville, Lyon. À À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous êtes en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, on chante, on résiste.
Je m'appelle Safa, c'est les délices de Liban. Toute la spécialité libanaise fait maison dans la montée de la Grande Côte, à Lyon 1er. On a ce restaurant, ça fait 6 années. Et c'est un restaurant qui marchait super bien, mais avec ce confinement, malheureusement, on était obligé d'être à la maison comme les autres. Et pendant 20 jours, c'était fermé le restaurant. Et après, on a commencé à voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce restaurant. On a pensé qu'il n'y a que la livraison qu'on peut le faire ici. On ne savait pas comment faire, on n'a pas d'internet, les livraisons pour installer les machines, c'était très dur. Mais grâce à mes enfants, ils m'ont aidé beaucoup pour trouver ces machines, installer. On est avec Deliveroo, Just Eat et Uber Eats. Je n'avais pas le choix parce que j'ai vu que ça va être long.
Et avant, vous ne faisiez pas ça, avant le confinement?
Avant, jamais, jamais. Je n'avais même pas le temps et je n'avais même pas besoin de faire ça. Mais là, malheureusement, avec tout ce qui se passe, on était obligé de faire ça.
Deliveroo, Uber Eats, ils vous prennent une partie de vos revenus?
Oui, ils prennent 30%. Vraiment, j'ai tenu, c'était trop dur. Alors imaginez-vous, toute la journée, je vois que 5 personnes. J'étais obligée de rester. Notre comptable, il m'a annoncé que je n'ai pas le droit aux aides parce que j'ai bien travaillé l'année passée. Du coup, je faisais tout mes possibles d'être là pour payer le maximum des charges que je peux faire. Et j'ai resté, j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je commence à revoir tous mes voisins, mes clients, très contents. Vraiment, ça commence à monter. Par contre, je travaille pour l'instant toute seule. J'ai 6 employés. Et voilà, ça fait 2 mois que je n'ai pas payé les charges URSSAF. Pareil, on a le droit. Par contre, j'ai une chose que j'étais contente. Ils m'ont annoncé que je peux faire un prêt à la banque. Et j'attends. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu aucun centime. Et moi, en même temps, le problème, il faut être trop méfiant. Je fais beaucoup attention, surtout du côté hygiénique, c'est pas facile. Il y avait, par exemple, le produit pour que je retourne ouvrir, je n'arrivais pas à trouver. Jusqu'à après 20 jours de confinement, j'ai retrouvé ce produit que j'ai acheté, je suis venue, j'ai ouvert, j'ai mis pour mes clients. Moi, je me suis protégée avec le masque, tout ça.
Et voilà. Ce produit dont vous parlez, c'est quoi ce produit?
C'est le comment on appelle?
Le gel,
voilà. J'ai acheté tout de suite pour 200 euros.
Vous avez peur pour vous, pour la santé, avec le coronavirus?
Bien sûr, c'est pas facile. J'ai l'œil à tous mes clients, à moi-même, mon mari pareil, quand on reçoit nos marchandises, comment faire, laver les mains, surveiller, toujours infecter tous les poignets, les frigos, les tables, là où ils touchent. J'essaie de faire le maximum. Si, c'est pas facile, hein, parce que c'est pas fini l'épidémie, et comme vous voyez, c'est pas... Il faut faire attention, bien sûr.
Le fait de porter un masque, ça ne vous fatigue pas?
Ah, ça me tue. C'est très dur de supporter. Et des fois, je mets même... comment on appelle ça? Pour même cacher les yeux. Ouais. Comment on appelle le truc?
Un masque intégral, quoi.
Intégral, mais je vois. Alors, des fois, quand je vois que je ne peux plus supporter ça, je mets ça. Ce n'est pas facile, mais ce qui me gêne le plus, c'est mes mains. Parce que toute la journée, je suis avec les gants et parce que je n'ai pas le choix. et je les change au moins par journée 6 fois. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, que tes mains, ils respirent pas. Du coup, j'enlève les gants pour juste les respirer. Après, je suis obligée de toucher le produit. Le produit, encore, c'est plus fort et j'arrive plus à supporter. Et malgré tout ça, je fais... J'ai pas le choix. J'espère que mes mains ne fatiguent pas à cause de ce petit souci.
À votre avis, vous allez pouvoir réouvrir quand le restaurant pour que les clients mangent à l'intérieur?
Voilà, c'est ça le grand souci qu'on a eu. En fait, le problème pour nous en tant que restauration, on n'a pas le droit jusqu'à maintenant, on n'a pas aucune feu vert. Jusqu'à fin juin, ils disent on va voir. C'est qui va payer toutes ces charges? Comment on va faire?
Bonjour, désolé, c'est vous qui vous avez commandé?
Oui, c'est ça. Prête. Super.
D'accord, vous voulez la sauce?
Oui.
En fait, moi, je suis passionnée par ça. Moi, quand je suis arrivée en France, ça fait 35 ans en France, et on est venu pour les études. Et à chaque fois chez moi, je prépare pour les amis, les invités, tout ça. Tout le monde me félicite pour ce que je prépare. J'aime bien comme ça faire plaisir, mais pas, c'était cadeau toujours. Jusqu'à un jour où il y a eu la crise économique. Mon fils, le grand... Il m'a dit, maman, il n'y a que le manger qui peut nous servir parce que toi, tu aimes ça et les gens, ils vont rester à manger. Pourquoi on n'est pas commencé à regarder un petit truc pour manger, un petit restaurant? Et j'ai commencé à regarder, j'ai tombé sur ce petit local que je l'adore parce que c'était pas facile du tout le début. C'est ma première expérience, mais j'ai tout appris avec mes propres mains. Bon, il ne faut pas que je parle beaucoup de moi, il faut venir ici tester et goûter pour... Voilà. Voilà, les falafels, les mezzés, les taboulés, le hummus, les babaranouj, les kefta, chich taouk, il y a du tout. Et les baklawa libanaises, tout, vous trouvez ici.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police mutine.
Violence policière.
Durant ces 2 mois de confinement, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, à la télévision un petit peu, mais vraiment un petit peu, et peut-être aussi dans certains papiers de presse, les violences policières ont pu être dénoncées. Pour autant, la couverture des assassinats est restée plutôt dans un angle mort. Or, le bilan est macabre. Au total, pendant ces 2 mois, 12 personnes ont été tuées par la police. 5 personnes sont mortes dans un commissariat. 3 autres personnes sont mortes suite à des tirs à balles réelles. 2 personnes sont mortes suite à une poursuite routière. Et 2 autres en sautant dans le vide. Le récit de tous ces crimes policiers est à retrouver sur votre site d'information préféré, rebellion.info. Ça fait froid dans le dos, mais c'est important de faire circuler ces infos.
Vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu 102.2. Feedback, autorégulation. La cyberactivité émergente aide rétroaction permet de modéliser les cyborgs autonomes Julie et Delphes. Thermostat 7. C'est ainsi que notre radioactivité positive et gravitationnelle commence. Mais comment faut-il que je vous le dise?
Il paraît que le confinement a fait bondir l'audience des radios. Sur le 102.2, l'audience, on s'en fout un peu, et avec les potes, on s'est rapidement donné les moyens de continuer à faire de la FM. Parce que ça nous occupait d'abord, et qu'on avait aussi l'impression que c'était plus que jamais important de se ménager des espaces pour dire ce qu'on avait à dire. Parce qu'aussi, de l'espace, on en manquait un peu partout. Alors, pour comprendre ce qui se trame derrière la diffusion à distance de la plus rebelle des radios, on a donné la parole à une partie de celles et ceux qui s'activent derrière des écrans, des tableurs, des logiciels de montage et des flux streaming depuis plus d'un mois maintenant, pour le plus grand plaisir de tes oreilles.
Les animatrices et animateurs de Radio Canu
s'organisent depuis leur salon pour continuer leur diffusion.
On est déjà, même hors confinement, on est très 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 dépendant d'Internet. Et là, encore plus en temps de confinement, au vu des outils d'organisation qu'on utilise.
Radio Canu, la plus virale des radios.
L'annonce du confinement, le lundi soir, j'étais à Berlin. Et donc forcément, à ces moments-là, se pose la question de est-ce que je reste là? Est-ce que je pars? Je retourne à Lyon? Et c'était assez évident pour moi que de monter un petit studio mobile chez moi pour faire de la radio. Et puis j'étais à Berlin, j'avais pas mes micros, donc c'était évident que j'allais rentrer chez moi, que j'allais galérer en train pour rentrer, mais qu'il fallait que je rentre chez moi pour faire de la radio.
Dès l'annonce du confinement, on a statué qu'on allait faire cette diffusion à distance pour permettre aux émissions de continuer à exister et aussi pour créer un peu de nouveaux espaces d'expression pour raconter un peu les choses.
Et ben, au début, on s'est retrouvés assez régulièrement sur Discord, la honte. Parce qu'après, on nous a dit que Discord, c'est la honte. Alors, on a arrêté et du coup, on a fait maintenant sur Framatalk. Mais alors, moi, ça n'a pas marché.
Au début, on est passé par un pad un peu chaotique. Et puis, bah, rapidement, il y a une équipe qui s'est montée pour gérer plus finement la grille des programmes, pour pouvoir annoncer à l'avance les émissions spéciales qui avaient lieu. C'est pouvoir annoncer sur le site un peu tout ce qui se passait en temps de confinement à la radio. Donc, il y a une équipe qui gère ça aussi.
On a imaginé à plusieurs là, de lancer une matinale. Donc on est plusieurs à faire la diffusion de nos maisons via des flux streaming qu'on envoie à la radio pour qu'ils prennent le relais des émissions qui devraient se faire en direct.
Techniquement, c'est assez simple. Donc c'est un logiciel qui est une librairie qui est à la base de beaucoup de logiciels d'automation. Ce qu'on appelle automation en radio, c'est on programme automatiquement des émissions et la diffusion d'émissions.
On a proposé aux animateurs et animatrices de faire les émissions de chez elles et de chez eux, de les enregistrer. Ensuite, il y a une commission de diffusion qui a la bonne heure. D'ailleurs, à 16h, là, je vais y aller, lance un fichier sur un flux streaming.
Salut Radio Canu! C'est le cortège de fenêtres.
Et puis, il y a eu pas mal de propositions. Forcément, les gens, ils sont en confinement, ils ont envie de raconter des choses. Donc, on a des créations spéciales confinement, j'allais dire, qui sont apparues. Notamment les histoires de Mémé Jacqueline, tous les matins.
Une histoire? Vous voulez une histoire?
Des journaux de confinement.
Carnet de bord du confinement.
Carnet de bord du confinement.
Journal viral.
Journal viral.
Journal viral.
Et puis on a la superbe équipe aussi du Boom Block.
Et ouais, c'est le Boom Block encore et toujours pour, on se rappelle, remuer les pellicules de Castaner.
Et pour organiser tout ça, au final, ça, il y a beaucoup de monde derrière.
Résiste, prouve que tu existes, vois ton bonheur partout, va, bats-toi et chine et persiste. Allez, bisous Canu.
On est en même temps à écouter la même chose et c'est ce que permet la FM par rapport à Internet. On est vraiment en même temps ensemble et du coup ça fait chaud au cœur parce qu'on partage des moments qui sont quand même communs. On crée du commun même si on a l'impression qu'on est tous déchirés, séparés les uns des autres et que c'est pas facile.
La radio, ça me fait du sens dans la vie, donc ça me fait du sens aussi dans un moment de confinement où on doit rester chez nous et où on ne peut pas se transmettre comme dans un bar des infos. Donc j'imagine, je projette que les gens écoutent plus la radio.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire à câble?
Radio Canu.
Canu Info du vendredi.
Eh bien Mathieu, aujourd'hui, ACAB, ça veut dire Atchoum et chante au balcon.
Ouais, salut, c'est Mémé Jacqueline. Alors, ceci est un message, on pourrait dire, quasiment interne à la section fiction du confinement de Radio Canu. C'est pour dire que Zouloulou, tes histoires, j'adore. Et ben voilà, c'est tout. Merci, ciao.
Salut, c'est Zouloulou, on se retrouve pour une nouvelle histoire.
Donc c'est encore une histoire pour les petits. Donc vous devrez aller chercher vos enfants et les mettre devant le poste de radio. J'espère que tout le monde va bien, que votre confinement va bien. Enfin, votre confinement va bien. Enfin, que ça va pour vous et voilà quoi.
Alors moi, dans cette période de confinement, ça a eu beaucoup de conséquences puisque toutes mes journées sont rythmées avec la radio, que ça soit pour diffuser ou pour simplement l'écouter. D'ailleurs, j'ai jamais autant écouté Radio Canyon de ma vie que depuis que je suis en confinement.
Vous êtes bien sur le répondeur de Radio Canu, nous ne sommes pas là.
Ben si.
J'écoute France Culture et beaucoup de podcasts, mais sauf qu'en ce moment, c'était impossible d'écouter, ça, c'était absolument anxiogène, ça ne m'allait pas du tout. Et donc j'ai arrêté d'écouter, en fait je me suis désintoxiqué, et comme on mettait en place très rapidement une super grille de programmes sur Canu, bah, je me suis mis à beaucoup plus écouter ces programmes spéciaux, mais aussi des émissions que j'ai pas l'habitude d'écouter. Et en fait, ça me fait du bien.
La radio dans ma vie, déjà, c'est hyper important. Je dirais que c'est un peu ma MIFA comme ça. Et là, du coup, de se retrouver confiné, de plus voir tous mes copines et tous mes copains de la radio, de plus pouvoir avoir de liens, de plus pouvoir faire le 1er mai, et bah, de pouvoir faire la Boom Block, et bah, c'est quand même vraiment génial parce que j'ai l'impression qu'on se retrouve tous et toutes. C'est la Boom, c'est génial, on danse, et en plus, c'est un bloc parce qu'on est ensemble, on fait groupe, et on va tous les ken à la sortie.
Mais non, tu ne rêves pas. Ce soir, c'est bel et bien une Boom que tu fais seule chez toi. Appel pour demander ta chanson préférée et faire des dédicaces à celles et ceux que tu aimes. Radio Canu, la plus dreams come true des radios.
Bon bah on est tous confinés chez nous et on passe tous par Internet pour s'organiser, que ce soit par mail, par chat, et puis bah, pour recevoir les émissions et les envoyer sur le serveur. On a créé une nouvelle dépendance à Internet avec le confinement.
Et il y a une énorme disparité entre nous. Il y a des personnes qui ont des micros chez eux. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais aussi, il y a des personnes qui ont des savoir-faire techniques et pratiques sur un ordinateur que d'autres n'ont pas. Il y a des personnes qui sont encore sur des systèmes propriétaires tels que Windows. Et voilà, mais c'est toujours ces questions de nous, on veut fonctionner avec du libre, on est une radio libre et on veut fonctionner avec des logiciels libres et pas propriétaires. On n'a pas envie que des gens se fassent du fric dessus. Et donc bah, ça prend aussi forcément plus de temps pour former les gens à ces outils. Prendre le temps en amont là, de trouver les bons outils qui vont un peu s'installer pour tout le monde sans trop de problèmes, etc.
Autre illustration de comment on s'organise autour de la radio, on s'est fait une réunion pour se donner des trucs et astuces pour diffuser. Et on s'est un peu amusé cet après-midi. Donc pour les personnes qui ont écouté la radio, ils ont pu entendre des essais de voix, des fois un peu chaotiques.
Vous êtes toujours à l'écoute de Canu. On a quelques petits problèmes de réverb.
Moi, je suis souvent devant un écran, j'ai la console quasiment tout le temps sous les yeux, même des fois quand je suis dans ma cuisine, pour vérifier que tout se passe bien. Et quand je suis pas chez moi et que je veux faire des courses, ben, typiquement, je me trimballe avec l'oreillette de la radio, et je vérifie que les émissions qui ont été programmées se déclenchent bien, que le script s'est pas arrêté, etc. Parce que je peux relancer les choses depuis mon téléphone. Donc je suis constamment un peu comme ça, sur le qui-vive. Donc c'est vrai, dès qu'il y a des émissions bizarres, qui ont des sons bizarres, je me dis, mince, là, il y a un problème, faut vite que j'aille regarder, etc.
On utilise énormément Internet en ce moment pour rester connecté avec d'autres gens. Pas seulement la téléphonie mobile, j'ai l'impression qu'Internet prend une place énorme. Et donc aussi pour la radio. Mais en attendant, je pense que le FM, c'est primordial. Beaucoup de gens écoutent dans leur voiture, beaucoup de gens ont des postes et n'écoutent pas que sur leur ordinateur.
Pour un confinement joyeux, raffiné et énervé.
c'est la fin des infos pour aujourd'hui. La semaine prochaine, lundi, vous retrouverez les infos du lundi, et puis toutes les autres pendant le reste de la semaine. Et tout de suite, on vous laisse avec Grand Vémont, c'est un groupe de la région, ils sont deux. Leur album s'appelle Persistance et Changement, ça dure 39 minutes en un seul titre. Et on vous laisse écouter un bout de celui-ci. Bonne écoute sur Radio Canu 102.2 FM, la plus belle des radios.
Laurier, bringue ballon, gracieusement la. du bon.